Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.
Aujourd'hui, dans notre chronique des 17e-18e siècles, on quitte les béguines et le temps des maîtresses-femmes de la Renaissance. Quant aux femmes qui ont résisté à l'ordre patriarcal, les sorcières, on ne les traque plus car désormais, on a trouvé d'autres moyens, moins grossiers et meurtriers, de les faire taire et de les effacer de la mémoire commune. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Ces 17e et 18e siècles, encore appelés les temps modernes, sont l'époque où est fixée pour de bon la place de la femme. Elle est reléguée à l'espace familial comme corvéable à merci et pour une fonction unique, être mère. Sous la surveillance d'un homme, père, mari, curé, employeur ou souteneur. Bref, cet enfermement dans la sphère privée a un impact dans des domaines aussi variés que le fonctionnement de l'État, la production littéraire ou la science.
Dans ces domaines, relégation, effacement et accaparement des femmes sont à l'œuvre. Mais comment l'État s'y prend-il ?
Dans un contexte où l'économie mercantiliste, les prémices du capitalisme se mettent en place, est activé le contrôle de la femme productive au travail comme petite main, dans les ateliers de la manufacture, dans la plantation et dans la sphère domestique. L'État, quant à lui, a besoin de main-d'œuvre, de soldats, de marins, de policiers, d'agents de voirie.
Ben voyons, oui, la femme devient très intéressante. On a besoin de main-d'œuvre, alors elle est intéressante par sa capacité reproductrice à une époque où la mortalité infantile est effrayante, rappelons-le.
La statistique naissante commence à mesurer les mortalités dues aux guerres, aux épidémies et aux famines, mais aussi la fécondité. Pour l'État monarchique, il faut que les femmes enfantent. Point n'est besoin de loi, de règlement pour cela. C'est dans l'ordre des choses, comme on dit. Les femmes de modestes conditions n'existent pas pour elles-mêmes. Elles sont comptées dans l'unité du foyer, avec à sa tête le chef de famille. On approche seulement leur état par les registres de mariage, les actes notariés pour les héritages, les actes de décès. Elles ne laissent pas de traces autrement, sinon que l'on constate que quand elles signent, c'est plus souvent par une croix que par leur nom. Dans ce programme, l'État a toujours l'Église comme alliée et la science pour renforcer son emprise sur les femmes.
Et l'effacement des femmes, comment ça fonctionne, dis-nous ?
Dans les milieux plus aisés, les hommes se mettent à parler des femmes à leur place et en leur nom. Les femmes n'ont plus la parole. Plusieurs mécanismes sont en action pour arriver au résultat de la disparition des femmes. Moquerie, ironie, persiflage, satire sont utilisés sans relâche contre les femmes qui cherchent à s'élever.
Sans doute qu'à force de les tourner en ridicule comme ça systématiquement, cela contribue à fragiliser les tentatives d'émancipation et sûrement à briser leur estime de soi.
Quand elles répliquent, on se moque d'elles. Ce sont des précieuses ridicules. Oui, oui. La pièce de Molière en 1659 évoque bien ces faits. Ces précieuses ont inventé une nouvelle manière de parler des tourments, de la passion, d'exposer leurs sentiments. Or, leur vocabulaire a même été qualifié d'obscène dans l'esprit du contrôle de la langue par l'Académie française récemment créée et dont Françoise nous a parlé dans sa chronique précédente. Molière écrit pour faire rire et en bon comédien pour se moquer des travers de son époque. Quand il met en scène les femmes, encore comme dans Les femmes savantes en 1672, ce n'est pas pour se moquer seulement des femmes, hein, puisqu'il s'en prend aussi aux hommes. Mais je rappelle quel est le ressort comique de cette pièce. C'est que les femmes se mettent à vouloir choisir leur mari.
Pourtant, les femmes ont tenu des salons ouverts à tous et réputés.
C'est un fait. La femme de lettres est quasiment le seul modèle de femme accepté, et encore dans des limites. Elle est épistolière, comme Madame de Sévigné, mais sa correspondance avait vocation à rester privée. Salonnière, comme Madame du Deffand, une philosophe dont on a complètement oublié la pensée. Mademoiselle de Scudéry, prolifique autrice de romans, partage la renommée avec son frère qui n'hésite pas à s'attribuer ses œuvres.
Mais les femmes sont quand même reconnues comme autrices de romans, de pièces de théâtre, non ?
Certes, certes, elles le sont.
Noémie, il faut quand même rappeler que Madame de Lafayette a toujours caché être l'autrice de La Princesse de Clèves, en 1678, ne lui reconnaissant qu'à demi-mot à la fin de sa vie la paternité de son œuvre. Enfin, la maternité de son œuvre. On est tellement habitués à dire paternité, vous vous rendez compte ? La maternité de son œuvre, excusez-moi.
Oui. Les autrices de pièces de théâtre sont discriminées par leurs rivaux, par les critiques. On en arrive même à minimiser la portée de leur création. On connaît bien le cas aujourd'hui de Catherine Bernard, dite Mademoiselle Bernard, qui a vécu entre 1663 et 1712. Elle est seulement maintenant identifiée comme la première dramaturge dont l'œuvre fut jouée à la Comédie-Française. Mais elle a été oubliée pendant des siècles et son œuvre n'est plus jouée du tout, alors qu'elle a eu beaucoup de succès. Certains critiques ont donc prétendu qu'elle ne pouvait être l'autrice de tragédies, mais voyons seulement de comédies. Et d'autres l'ont dépossédée de son travail, soit en attribuant ses pièces à d'autres écrivains, comme Corneille par exemple, soit en expliquant que si elle avait eu du succès, c'est parce qu'elle était apparentée à un autre écrivain, un grand écrivain bien sûr.
Ce qui est incroyable, c'est que les femmes en viennent à se dissimuler. Elles travaillent dans l'ombre, chez elles. Et donc elles finissent par intérioriser leur infériorité. Elles ne peuvent pas publier. Ce serait des prétentieuses, ridiculisées de vouloir faire comme les hommes. Les hommes, eux, ils sont publiés, sans réserve, lus et même commentés.
Enfin, il existe un procédé d'occultation des femmes promis à grand succès, puisqu'il fonctionne jusqu'à nos jours encore. Compagnons, maris, amants, parents s'approprient leurs œuvres sans limite. Un petit témoignage personnel. Je me souviens de l'époque d'avant les ordinateurs. Les travaux de maîtrise de mes copains étaient tapés à la machine par mes copines. Tapés, mais aussi corrigés et réécrits en bon français. Je n'ai jamais entendu de remerciements publics au moment de la soutenance. C'est ce conditionnement des femmes qui concourt à leur invisibilisation, qui les exclut de l'espace public et les efface de notre mémoire. Alors qu'elles ont abordé tous les domaines de la création, elles sont totalement oubliées, exclues de toute reconnaissance.
Les lumières n'ont pas vraiment brillé pour les femmes alors. Et du côté des découvertes scientifiques qui marquent les temps modernes, les femmes n'ont pas leur place non plus ?
Eh bien non. Une anecdote célèbre circule sur Émilie du Châtelet, qui a vécu entre 1706 et 1749. C'est une mathématicienne, physicienne, philosophe. Elle travaille depuis des années sur la traduction en français des Principia Mathematica, l'œuvre de Newton, celui qui a découvert la gravité. En France, on lui refuse l'accès aux lieux de discussion, que sont les cafés à Paris. L'Académie des sciences, elle, interdite aux femmes, l'ignore complètement. Finalement, en 1734, elle se présente vêtue en homme au café Grado, tournant le règlement en ridicule et pouvant entrer en discussion avec de nombreux mathématiciens, astronomes, physiciens. Et n'oubliez pas que s'habiller en homme quelques décennies plus tôt était passible du crime de sorcellerie et du bûcher. Elle est reconnue aujourd'hui seulement. Cette Émilie du Châtelet a longtemps été présentée comme la compagne et la protectrice d'un certain Voltaire.
Alors, on peut dire que les grandes découvertes se retournent contre les femmes.
Tout à fait. En médecine, par exemple, le tabou religieux pesant sur l'anatomie vient d'être levé à l'époque de la Renaissance. Il interdisait de disséquer les corps. Donc, on peut désormais identifier les organes internes. Le rôle des ovaires est compris à partir de 1672. Il va sans dire que la procréation est un centre d'intérêt majeur. La fécondité, la grossesse, l'accouchement sont de telles énigmes que l'homme s'arroge le pouvoir de les résoudre. Et oui, à cette époque, par exemple, les chirurgiens évincent les matrones et les sages-femmes. Chez des savants comme Buffon, un nouveau discours normatif apparaît sur la femme allaitante en rupture avec les pratiques de mise en nourrice. Contrôlées par la science, les femmes perdent la maîtrise de leur corps et de leur sexualité. Enfin, la biologie naissante est l'arme ultime contre les femmes. Elle hiérarchise l'espèce humaine en confirmant la place de l'homme au-dessus de la femme. La différence anatomique entre hommes et femmes devient la preuve que deux espèces cohabitent. La science trouve une place à la femme par rapport à l'homme en l'infériorisant. La science ramène la femme à la nature et en fournit les preuves. Elle explique les différentes capacités et vertus attribuées à l'un et à l'autre par des différences de nature. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre que dans le racisme. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, œuvre majeure du XVIIIe siècle, l'article « femme » est un concentré de conceptions masculines au sujet de la femme, qui est défini simplement comme la femelle de l'homme.
Ainsi, c'est seul le discours masculin qui a la dignité suffisante pour parler au nom des femmes.
Le cerveau des femmes est incapable de raison, car dominé par les sens.
Ne me dites pas qu'on doute qu'elles aient ce que les hommes ont naturellement, la raison.
Eh bien, c'est difficile à entendre pour une femme. Voyons dans notre prochaine chronique ce que deviennent les femmes pendant la Révolution. Peut-être que leur sort va s'améliorer.
Espérons.
Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.